Bonjour à tous, le projet de loi bioéthique. Le projet de loi bioéthique donc fait son retour devant l'Assemblée nationale avec une mesure phare en discussion. Il s'agit de l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de femmes. Une mesure loin, très loin de faire l'unanimité, nous dira dans ce journal Antoine Marette. L'or bat des records, le cours du métal jaune explose, près de 2 000 $ l'once. Marie Viennot nous donnera quelques clés pour comprendre ce pic historique. Le chômage en France, il a bondi de 24,5% au deuxième trimestre en catégorie A. La reprise de l'activité post-confinement ne suffit décidément pas à compenser la tendance lourde sur un an. Explication signée Anne-Laure Chouin. La bannière étoilée ne flotte plus sur le consulat américain de Chengdu. Réponse de la Chine à la fermeture du consulat chinois à Houston. Correspondance Simon Leplat. Et puis en Israël, la colère s'intensifie contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nous retrouverons Alice Froussard à Jérusalem. Le retour à l'Assemblée nationale de la loi de bioéthique pour une semaine de débat. Le dernier texte examiné durant cette session, examen qui avait été reporté pour cause de coronavirus. La mesure la plus importante portée par le projet de loi concerne l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée, aux femmes seules et aux couples de femmes. Actuellement, seuls les couples hétérosexuels stériles y ont accès. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour.
Cette PMA pour toutes est une revendication de longue date des associations LGBT, mais le texte proposé aujourd'hui ne leur convient pas, Antoine.
Effectivement, plusieurs associations LGBT regrettent ce qu'elles considèrent être une future discrimination entre les couples hétérosexuels stériles qui ont recours à la PMA et les couples de femmes qui pourront y avoir recours une fois le texte adopté. Alors c'est un peu technique. Quand un couple hétérosexuel a recours à une PMA, la femme qui accouche est automatiquement reconnue comme la mère. Le père, lui, bénéficie d'une présomption de paternité et peut sans difficulté aller reconnaître l'enfant qui n'est pas le sien biologiquement parlant. Pour les couples de femmes, en revanche, le processus ne sera pas automatique. Elles devront effectuer une reconnaissance commune anticipée. Marie-Claude Picarda est porte-parole de l'Association des parents gays et lesbiens.
En pratique, on ne sait pas du tout comment ça peut se passer, puisque une femme qui accouche est automatiquement la mère. Mais en même temps, il faut qu'elle ait quand même consenti et fait une reconnaissance préalable anticipée pour que la filiation puisse être réellement établie. Et on ne comprend pas du tout ce principe de filiation commune et conjointe anticipée. On n'a jamais vu ça. C'est réservé aux couples de femmes. Tout est extrêmement compliqué. Rien n'est clair. Et au lieu d'aller vers une simplification des choses en poussant le droit de ces nouveaux couples reconnus vers le droit commun, on les tire dans des sous-catégories de population où rien ne sera correctement établi et tout va être compliqué, et en plus compliqué également pour les enfants qui verront des filiations atypiques établies pour eux.
La PGL, comme d'autres associations LGBT, demande que l'établissement de la filiation pour les deux mères soit automatique, comme pour les couples hétérosexuels, une façon pour elle de faire entrer de plein pied les couples de femmes dans le droit commun.
Merci Antoine Marette pour ces explications. La Manif pour tous a appelé par ailleurs un rassemblement devant le Palais Bourbon, rassemblement qui vient en principe de débuter. On vous en parlera plus précisément dans notre prochaine édition à 18h. En France, les derniers chiffres du chômage ne marquent pas vraiment d'inversion de tendance par rapport au précédent. Ils concernent le deuxième trimestre de cette année 2020, c'est-à-dire en pleine période de confinement et de début de déconfinement. Sur un an, entre juin 2019 et juin 2020, le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire n'exerçant aucune activité, a augmenté de 24,7%. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez épluché les chiffres publiés ce matin. Leur évolution peut difficilement s'expliquer autrement que par le contexte Covid.
Oui, cette forte hausse du chômage sur un an est évidemment la conséquence de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, les chiffres du trimestre sont très contrastés entre les mois d'avril, pleine période de confinement, et mai et juin, où le nombre d'inscrits à Pôle emploi en catégorie A connaît une forte baisse. C'est pour cela d'ailleurs que la DARES, la Direction des études et des statistiques du ministère du Travail, a fait un focus mensuel, contrairement à ses habitudes, d'où il ressort qu'au mois de juin, le nombre des chômeurs sans aucune activité a fortement baissé, moins 4,6%, dû au basculement, certainement en catégorie B ou C, c'est-à-dire en activité réduite. Pour résumer, on peut dire que les chiffres mensuels du chômage montrent que l'activité économique redémarre. Les chiffres trimestriel, eux, plus 22,7% de chômeurs en catégorie A par rapport au trimestre dernier, montre que le choc a été très rude. toutes catégories confondues, c'est-à-dire chômeurs sans emploi ou en activité partielle en incluant les départements et régions d'outre-mer, le taux de chômage augmente sur un an de 3,9%. Il faut noter ces derniers jours des signes de reprise de plusieurs indicateurs économiques, activité du secteur privé qui s'est redressée, particulièrement dans les services, indicateurs du climat des affaires de l'INSEE qui montre que les chefs d'entreprise retrouvent de la confiance, ou encore chiffres de la consommation qui repart de plus belle. Mais dans les cabinets d'expertise, comme à Bercy, un seul mot d'ordre, la prudence. La fin de l'année reste très incertaine. Attendons de voir la situation à la rentrée.
Merci Anne-Laure Chouin pour avoir décrypté ces chiffres concernant essentiellement donc le deuxième trimestre de cette année 2020. Et je vous renvoie à un magazine, une émission signée Sophie Delpont, diffusée sur France Culture en juin dernier dans la série Grand Reportage, Coronavirus, les chômeurs en souffrance, que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site France Culture. Un nouveau record pour le cours de l'or ce matin. Près de 2 000 $ l'once et une once. C'est pas beaucoup, comme dirait l'autre. 31 grammes et des poussières, si j'ose dire, compte tenu de leur prix. Le précédent record remontait à 2011. Et c'est bien sûr un signe des temps. L'or, sempiternelle valeur refuge, atteint des sommets au moment où l'économie mondiale traverse une grosse zone de turbulence et qu'en période d'incertitude, comme lors de la crise financière de 2008-2009, rien ne vaut le bon vieux métal jaune. Bonjour, Marie Viennot.
Bonjour.
Comment peut-on interpréter en fait ce record atteint aujourd'hui ?
Alors, record battu, hein, en effet, comme vous le disiez, pour l'once d'or et le lingot, plus facile à se représenter visuellement, qui revient donc ce lundi à 27 660 € pour un lingot de 500 grammes. Alors, on dit que l'or est une valeur refuge, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'or a d'ailleurs plongé très fort au tout début du confinement, comme l'avaient fait les bourses. La première valeur refuge pour ceux et celles qui ont des capitaux, c'est le dollar et les titres de dette américaines. Mais vendredi dernier, les mauvaises nouvelles se sont accumulées outre-Atlantique. Le marché du travail ne rebondit pas. Les contaminations au Covid-19 se poursuivent. La Maison-Blanche et le Congrès tardent à s'entendre sur un possible nouveau plan de relance. Et les tensions géopolitiques avec la Chine vont crescendo. Tout cela a fait chuter le billet vert, ce qui rend l'or plus attractif puisque son cours est en dollars. Rappelons que l'or n'offre aucun rendement et au contraire, le stocker coûte. Ce qui pousse les détenteurs de capitaux à en acheter, c'est qu'ils espèrent qu'il ne perdra pas sa valeur. Et ce qui les pousse en ce moment encore un peu plus, c'est que les autres valeurs refuges, c'est-à-dire les titres de dette américaines ou européennes, surtout allemandes, n'offrent aucun rendement. Les banques centrales ont injecté tellement d'argent dans le circuit pour contrecarrer les effets de la récession que les taux d'intérêt sont massivement négatifs. C'était déjà le cas avant, mais depuis 3 mois, on a atteint de nouveaux records. 14 000 milliards de dettes offrent en ce moment des rendements négatifs. En regard donc, les inconvénients de l'or, qui lui aussi coûte à détenir, sont moindres. En revanche, pour la relance, cet engouement pour l'or peut poser problème, car l'or ne crée ou favorise aucune activité. D'un point de vue économique, à part pour ses détenteurs, on peut même dire que c'est un investissement contre-productif.
Merci beaucoup Marie Viennot à propos donc de ce pic historique concernant l'or dans les bourses mondiales. Le gouvernement s'apprête à annoncer les premières mesures réglementaires inspirées des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 citoyens de la Convention ont proposé 149 mesures dans l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, dont 146 ont été retenues finalement par Emmanuel Macron. Et parmi les mesures qui peuvent être adoptées par décret, qui sont donc les plus rapides à mettre en œuvre, pourrait figurer la limitation à 30 km/h dans les agglomérations. On peut vous annoncer d'ores et déjà que les terrasses chauffées seront interdites à partir de l'année prochaine en France. Gérard Darmanin va porter plainte contre le nouveau maire écologiste de Colombes, Patrick Chemovitch. Celui-ci a comparé les forces de l'ordre qui traquent les migrants aux policiers et gendarmes impliqués dans la rafle du Veldiv. Des propos qui ont révulsé les syndicats de policiers. Le ministre de l'Intérieur ne laisse pas passer. Il porte donc plainte.
Le geste est on ne peut plus symbolique. Ce matin, le drapeau américain a été descendu.
Chose promise, chose due, le drapeau américain ne flotte plus sur le consulat de Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan. Ce matin, la bannière étoilée a été en effet retirée du bâtiment occupé par les États-Unis depuis 1985. C'est la réponse de Pékin à la fermeture la semaine dernière du consulat chinois à Houston. Nouveau signe de refroidissement, sinon de glaciation des relations entre les deux puissances. En ligne de Shanghai, Simon Leplâtre.
Le geste est on ne peut plus symbolique. Ce matin, le drapeau américain a été descendu dans la cour du consulat américain de Chengdu, dans le sud-ouest chinois, et l'enseigne qui marquait le mur extérieur couvert d'une bâche grise. Les opérations étaient suivies par des dizaines de millions de Chinois grâce à un streaming en direct diffusé en ligne. La plupart des commentaires révèlent la rage des Chinois contre les attaques répétées des États-Unis. Le consul américain de Chengdu s'était fait apprécier pour son niveau de chinois et des chansons publiées sur Internet avec sa femme et ses enfants pour le Nouvel An chinois par exemple. Mais les efforts de rapprochement entre les peuples de ce diplomate local ont été balayés par les tensions grandissantes entre les deux premières puissances mondiales. Les voix modérées sont plus difficiles à entendre, mais la Chine joue un jeu délicat. Alors que la propagande souffle sur les braises, les autorités veulent aussi empêcher la colère du peuple de dicter la réponse politique. Quelques nationalistes ont tenté de déployer des banderoles ou de chanter des slogans devant le consulat. Vendredi, un homme a même lancé un feu d'artifice. Ils ont été immédiatement arrêtés par la police. Depuis, la police a fermé la rue qui mène au consulat. Les autorités chinoises se plaisent à diriger la colère du peuple contre les États-Unis alors que la crise économique fait suite à l'épidémie de Covid-19. Mais pas question de perdre le contrôle. De cette manière, elle se réserve la possibilité de faire redescendre la tension si Trump n'était pas réélu, par exemple.
La Covid dans le monde, la pandémie continue de s'étendre. L'Amérique latine, les Caraïbes sont devenues la région ayant enregistré le plus grand nombre de contaminations ces derniers temps. L'Algérie reconduit pour 15 jours le confinement dans la plus grande partie du pays. Le Maroc impose également des mesures de confinement dans ses grandes villes. Et puis le Royaume-Uni impose depuis hier une quatorzaine aux personnes revenant d'Espagne. L'Espagne où une nouvelle polémique fait d'ailleurs rage, déclenchée par le journal El País, selon lequel la Covid aurait tué presque 45 000 personnes en Espagne, beaucoup plus que le chiffre officiel de 28 000. La gronde sociale ne connaît décidément pas de trêve en Israël. Ils étaient encore des milliers hier devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem et aux quatre coins du pays, Césarée, Tel Aviv ou encore sur les bords des autoroutes israéliennes. Le Premier ministre vilipendé pour sa gestion de la crise du coronavirus et les lourds soupçons de corruption qui pèsent sur lui alors que le pays a vu son taux de chômage bondir de 3,5 à plus de 20% aujourd'hui. Au pouvoir depuis 2009, le Premier ministre dénonce quant à lui la propagande menée par les médias. Explication de notre correspondant à Jérusalem, Alice Froussard.
Il y a eu tous ces exacts stratégiques dans la gestion du coronavirus. Un plan de sauvetage de l'économie un peu trop flou, des mesures absurdes, des arbitrages plus politiques que sanitaires. Et tout cela n'a fait qu'alimenter les critiques déjà existantes visant Benjamin Netanyahou et ses affaires de corruption. Mais cette fois, cette convergence des mécontentements à des airs de contestation nationale, avec des manifestations presque deux fois par semaine, rassemblant plusieurs milliers de personnes. La grogne a d'ailleurs gagné de nombreux secteurs, ceux en crise, mais aussi ceux très sollicités pendant la pandémie, comme les travailleurs sociaux ou les infirmiers. Qui ont lancé leur propre mouvement de grève. Netanyahou apaise la colère comme il peut, accorde des budgets supplémentaires, mais un quart de la population active est toujours au chômage et le gouvernement ne sait plus où donner de la tête. Tous paient les frais de l'ultralibéralisme du modèle économique israélien. Politiquement, c'est compliqué aussi pour Netanyahou. Son parti, le Likoud, subit une forte baisse de popularité et les manifestations en soutien au Premier ministre rassemblent peu, contrairement à d'habitude. Bref, même la base de celui que l'on surnomme Bibi s'effrite. La semaine dernière, un sondage pointait que 75% des Israéliens étaient mécontents de sa gestion de la crise.
Voilà pour ce qui se passe en Israël. Je vous le disais, en Espagne, une nouvelle polémique fait rage, déclenchée par le journal El País, où la Covid aurait tué beaucoup plus que ce qu'en disent les institutions gouvernementales. En ligne de Madrid, tout de suite, on retrouve Marie-Hélène Ballestero.
Cela fait des mois que la guerre des chiffres a démarré en Espagne. L'opposition menée par Vox et le PP a accusé à maintes reprises le gouvernement Sanchez d'avoir minimisé consciemment le bilan des victimes et l'article publié hier par le quotidien El País ne va faire qu'enfler la polémique. Selon le journal de centre-gauche, le Covid-19 a fait 44 868 décès en Espagne, ce qui veut dire 16 436 morts de plus par rapport au bilan officiel du ministère espagnol de la Santé. Mais comment expliquer un tel écart? Eh bien, El País a rajouté les décès dû à un Covid-19 présumé en se basant sur les registres des 17 communautés autonomes espagnoles, tandis que pour l'instant, le ministère de la Santé ne comptabilise que les personnes mortes de Covid-19 qui ont pu être confirmées par des tests PCR. Or, au début de l'épidémie en Espagne, ces tests étaient rares, d'où la sous-estimation du bilan. Le journal El País va plus loin et affirme que ce nouveau bilan de 44 868 décès est quasiment similaire à ceux avancés par l'Institut National de la Statistique, l'Institut l'Institut de Santé Carlos III et l'Association Espagnole des Professionnels et Services Funéraires. Ces organismes ont annoncé dès la fin du mois de mai que l'Espagne avait enregistré depuis la mi-mars une surmortalité d'environ 44 000 décès par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Nul doute que ce nouveau bilan va servir une fois de plus d'arme politique contre le gouvernement de Pedro Sanchez.
On termine ce journal avec la tendance météo du jour. Une semaine marquée par une hausse régulière des températures, hausse maximale des maximales de 31 à 37 degrés, voire 40 degrés cet après-midi en région Midi-Pyrénées. Pour le reste du pays, ça va s'échelonner, disons, entre 25 et 33 degrés. Fin de ce journal, préparé avec Brice Garcia. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 18h.